Soudain, le chant d'un oiseau, le soleil sur le feuillage ou les bourgeons d'un taillis me rappellent que la vie, depuis qu'elle parut sur la terre, mène un combat qu'elle n'a jamais perdu. Une phrase du général de Gaulle dans ses Mémoires de guerre, évidemment, chers auditeurs. Je suis Valentin Gore, très heureux de vous retrouver sur Radio Courtoisie pour cette émission consacrée, vous l'avez entendu, au général de Gaulle et à son rapport très particulier qu'il entretenait avec les écrivains. Il était bien entendu écrivain lui-même. Nous avons choisi avec Paul-Marie Couteau, qui est avec nous depuis la Corrèze et qu'on va retrouver dans une seconde, de centrer le débat, si je puis dire, autour de Mauriac, Bernanos et Malraux, mais nous évoquerons également tout à l'heure avec Philippe de Saint-Robert, qui a été très longtemps journaliste au Monde, auteur des Septennats interrompus, du Secret et des Jours, un confident à la fois du général de Gaulle, il était très jeune, et puis ensuite de Georges Pompidou et de tant d'autres, Mémoire de la Ve République. Et avec lui, nous parlerons aussi du rapport très singulier, quoique plus lointain, que le général a pu entretenir avec Monterland. Et puis, en fin d'émission, nous rejoindra Guillaume Senet, président des Murmures dans la Cité et président de l'Académie Acropolis. Vous savez que Murmures de la Cité, c'est ce fameux spectacle historique qui rend grâce à l'histoire de France et qui a été très mal mené dans l'Allier, à Moulins précisément. Alors, Paul-Marie Couteau, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes avec
nous? Non
seulement
je vous entends, mais je vois vos paroles, mon cher Valentin.
Formidable. Alors, vous êtes en Corrèze. La Corrèze est d'abord une terre d'écrivains. Le Limousin, plus généralement, la Corrèze, on pense à quelqu'un comme Denis Tillinac, au Limousin Giraudoux, évidemment. Un écrivain, d'abord, c'est toujours quelqu'un d'enraciné. Ça, nous en parlions l'autre jour au téléphone. Il y a un rapport très net entre la plume et les racines terriennes. Finalement, tous les écrivains sont un peu des écrivains régionaux.
Alors, beaucoup de choses à dire. Oui, à peu près tous les écrivains sont des écrivains régionaux, au sens, pas tous, les autres, c'est du jus de crâne, que quand on écrit, on a toujours besoin d'être sur une terre, ne serait-ce que parce que la langue a besoin de se nourrir de symboles, on dirait paysans. Alors, il y a un grand nom là-dedans, c'est Mauriac, dont nous allons parler.
Bien sûr.
Et c'est plein de métaphores paysannes, les pins, les vignes, etc. Mais tous les écrivains ont besoin de cet appui terrien. Et y compris de Gaulle, d'ailleurs, puisque ce que vous citiez est un passage très typé, très campé dans sa ville, dans son village de Colombey, près de Bar-sur-Aube, enfin en Haute-Marne. Et vous disiez qu'il était à la fois homme politique et écrivain. Alors, d'une part, on peut le dire de la Corrèze, il y a beaucoup d'hommes politiques en Corrèze, c'est gentil.
Oui, c'est vrai, il y a plus d'hommes politiques que d'écrivains, effectivement. Oui.
Il y en a pas mal, mais enfin, Tillinac. Il y en a un autre qui est très bon, excellent, qui est Claude Michelet.
Oui.
Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il est apparenté à Edmond Michelet, qui fut longtemps chef de la résistance locale, qui a
bien
été
sûr,
énorme en Corrèze. Oui. Et un de ces hommes politiques corréziens qui ont peuplé la République. Trois des présidents de la République sont corréziens. Alors, il y a l'ineffable Hollande, il y a eu Chirac, plus ou moins corrézien, pas mal quand même. Et puis...
Alors, le troisième, je ne vois pas, effectivement.
Oui, parce que je m'approprie un peu indûment deux voisins, Pompidou, qui était à la fois...
Ah oui, ça c'est le Cantal.
Et quant à
le Lot, effectivement.
Le voisin. Et puis Valéry Giscard d'Estaing à l'Est.
Oui.
C'est le Puy de Dôme, mais c'est pas loin, c'est à une encablure.
Il y a eu Henri Queuil aussi, qui était président du Conseil.
Il y avait Henri Queuil. D'ailleurs, toute la Ve République est résumée par la rencontre ineffable de Hollande et de Chirac sur le jour des obsèques d'Henri Queuil.
Absolument.
Qui était un grand corrézien aussi. Si j'étais facétieux, j'ajouterai à la liste des présidents de la République du coin. Enfin, il faut vraiment tirer, là, pour le coup, dans le Grand Sud-Ouest, c'est Mitterrand qui était charentais. C'est pas si loin, d'ailleurs. J'étais, il y a quelques temps, charentais. J'ai pas eu beaucoup de voyages à faire, en passant par la Dordogne ou Roland Dumas. Enfin, c'est une foison et d'hommes politiques et d'écrivains. Et à propos d'écrivains, je ferme la parenthèse localiste, si on peut dire, mais bon, je peux pas m'en empêcher parce que j'aime de plus en plus mon Sud-Ouest. Une petite anecdote qui vous amusera. Un jour, peut-être que Philippe de Saint-Robert va la corroborer, je crois que c'est de lui que je la tiens. Un jour, Monterland recevant Saint-Robert, c'est vous dire si Saint-Robert est bien plus qu'un journaliste, comme vous l'avez dit au Monde. J'aime beaucoup
mais
les journalistes.
Mais bien sûr, bien sûr.
Journaliste de Valeurs Actuelles, c'est entendu. Mais enfin, Saint-Robert a été est un des rares hommes contemporains, vivants, bien vivants, qui est bien connu, le général de Gaulle. Et je dis ça parce qu'il a aussi connu beaucoup d'écrivains, nous allons en parler. Monterland le reçoit un jour en lui disant « Je suis stupéfait, j'ai reçu de votre ami le général de Gaulle. » Monterland n'était pas plus gaulliste que ça.
Oui, même moins que ça, oui.
moins, oui, ça dépendait, enfin, il correspondait un peu avec le général de Gaulle. Bon, ouais. Monterland lui dit « Oh, écoutez, je suis stupéfait, j'ai reçu une lettre de votre ami le général de Gaulle, donc, qui commençait ainsi, cher confrère. » Et Monterland dit à Saint-Robert « Mais pourquoi cher confrère il n'est pas membre de l'Académie, votre de Gaulle n'était pas un écrivain. » Voilà. Donc, il se prenait en effet pour un écrivain, Gérald de Gaulle, puisqu'il donne du confrère à Monterland.
Mais il avait raison, du reste, parce que c'est vraiment un écrivain. C'est pas à vous qu'il faut le dire, vous qui avez écrit un de Gaulle philosophe et qui allez d'ailleurs le poursuivre, qui est en train d'en écrire la deuxième partie. Sans déflorer, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce travail immense, il faut bien dire, que vous êtes en train d'abattre depuis votre Corrèze.
On va dépasser les 800 pages, mais je préfère ne pas en parler, parce que je m'aperçois que plus je parle d'un livre,
moi, on l'écrit.
Moi, je l'écris, moi, je le publie. Donc, je le commence et je ne le publie pas.
N'en parlez pas. Mais pour revenir à Mauriac, parce qu'on va évidemment parler de ces trois, hein, il y a là un triangle, hein, Mauriac, Bernanos, Malraux. On pense toujours à Malraux d'abord, évidemment, mais ça, c'était le compagnonnage politique. Mais vous allez nous montrer que ce n'était peut-être pas celui que De Gaulle mettait le plus haut. Mauriac, dont Mitterrand, pour reparler de ce terme des écrivains régionaux, Mitterrand, qui était un peu méchant, évidemment, avec Mauriac, l'a taxé d'écrivain régional, comme si son cher Chardonne, dans les Charentes, là aussi, grand écrivain, mais écrivain régional également, n'est-ce pas ? Mauriac, que vous aimez, évidemment, puisque ce sont aussi vos racines bordelaises, puis aussi parce qu'il a quand même, au-delà de l'admiration qu'il avait pour De Gaulle, conserver peut-être davantage de distance. Il n'était pas au quotidien avec De Gaulle comme pouvait l'être Malraux, donc il le voyait vraiment avec le point de vue de l'écrivain, de l'homme un peu dégagé des contingences. Avec des désaccords aussi, parfois.
Oui, c'est ça. Avec
il
ne
l'a pas désaccords, toujours suivi à la lettre.
Non, c'est vrai. Mais vous savez, c'est le thème de notre émission, vous l'avez voulu tel, et je sais que vous êtes à votre affaire, parce que vous avez beau être un journaliste politique, vous aimez par-dessus tout la littérature. Donc,
certes.
C'est vous qui avez choisi ce thème, cher Valentin. Vous avez
bien sûr. Mais,
il y a autour du général de Gaulle, et il y a autour, tout au moins au XXe siècle, quand il y avait encore un État qui se tenait à peu près, il y a toujours beaucoup d'écrivains autour des hommes politiques, lesquels se piquent toujours d'écrire. Même si maintenant, quand ils écrivent, ils ont 350 lecteurs et encore 350 personnes qui achètent leurs livres, et encore qui achètent leurs livres à la condition que l'auteur politique les dédicace. Bref, on est tombé là aussi bien bas. Mais il y a eu cette espèce de connivence permanente entre l'écriture et la politique. Et tout ce dont nous parlons, alors peut-être pas Monterland d'ailleurs, qui s'est beaucoup dégagé, lui, alors pour le coup.
Avec un mépris, beaucoup de mépris pour
la. Il avait un mépris profond pour l'acte politique, qu'il a de certaine façon sauvé, je tiens à le dire, qu'au Nouveau Conservateur, on a consacré plusieurs études, souvenez-vous, vous aviez plus de temps à ce moment-là, et vous nous aidiez beaucoup, je sais que vous en avez beaucoup moins, mon cher Valentin, mais
hélas.
Le Nouveau Conservateur a publié. Plusieurs études sur les écrivains sous l'occupation. Je crois que c'était notre numéro 14, consacré en grande partie à l'affaire de Gaulle-Pétain, qui s'appelle « Deux résistances incomprises », vous voyez la tonalité générale. Monterland est un des auteurs que nous retenons, à la différence de Sartre, qui s'est voulu engager, alors il ne foutait pas grand-chose et même rien pendant la guerre. Monterland
a même collaboré, on peut le dire.
Oui, c'est ça. Merci. si, je sais pas trop. Enfin, je sais pas pourquoi je n'osais pas le dire.
Mais vous pouvez le dire. Puis ça, au passage, on peut embarquer Simone de Beauvoir, absolument, qui était même bien pire que lui encore.
Ah oui, elle travaillait à Radio Paris, puis après, il vous donne des leçons. Enfin,
bon. Bien sûr.
Monterland s'est tenu à l'écart. Tout à fait, tenu à l'écart et en haut. Et heureusement d'ailleurs, parce que s'il avait vraiment dit le fond de sa pensée, qu'il a dit à certains, c'était, il aurait pu l'en cuire. Et enfin, il a été plus ou moins inquiété à la Libération, mais son extraction de la politique, son recul vis-à-vis de tout acte politique, l'a protégé d'une certaine façon. Mais enfin, il faisait partie du paysage, ne serait-ce que parce que le général de Gaulle l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et beaucoup lu. Il était un de ceux, à remarquer d'ailleurs qu'il n'y a presque que des hommes de droite, que de Gaulle a beaucoup cultivé.
On peut dire un mot, on va accueillir Philippe de Saint-Robert dans quelques minutes, pour parler de tout cela avec quelqu'un, encore une fois, qui a connu vraiment le général de Gaulle.
Il a connu Monterland,
il a connu tout le monde, bien sûr. Ce livre formidable sur Monterland, on va en parler aussi. Je voulais parler un instant de Le Clésio, parce que jusqu'à assez tard, De Gaulle a continué de s'intéresser, y compris à la littérature contemporaine. Il y a cette fameuse lettre qu'il envoie à Le Clésio, donc là encore, ça renforce ce que vous disiez sur cette attention très grande qu'avait De Gaulle pour la littérature. C'était un lecteur, et c'est resté un lecteur, y compris lorsqu'il était au sommet du pouvoir.
Il était au président de la République et il écrit avec beaucoup d'humilité et de simplicité un jeune auteur, Jean-Marie
Gustave Le Clésio, c'est bien ça.
Oui, il était sur le Gustave, J.M.G. Le Clésio. Une lettre très touchante, vous qui êtes à l'orée de la vie ou à l'orée du chemin, et passé sous ses premiers ormeaux, vous, etc., etc. Enfin, il se mettait à la place de son interlocuteur, il le louait pour sa plume, il a dit aussi, je crois que c'est à propos de Le Clésio, mais peut-être que j'extrapole. Tout homme qui écrit et qui écrit bien sert la France. Alors, ça résume.
Oui, est-ce qu'il l'a dit pour Le Clésio ou peut-être pour Bernanos, dont on reparlera plus tard, je ne sais plus, peut-être. Mais en effet, alors, il y a beaucoup d'écrivains. Je veux citer ce livre de Jean-Claude Perrier, une seconde, De Gaulle vu par les écrivains, publié dans cette très bonne maison d'édition qu'est la Table Ronde, collection La Petite Vermillon. Et alors, on se rend compte qu'il y a un tas d'écrivains, y compris certains qui sont assez inattendus, comme Jean Dutour, ou Jean Guiton, ou Jacques Laurent, évidemment, des écrivains là, qui prenaient le parti inverse.
De droite,
absolument, oui. La gauche est moins représentée, quoi qu'il y a peut-être dans ce livre un peu de Jean-Paul Sartre. Donc là, on peut imaginer le ton absolument minable, d'ailleurs, de ces pages qui sont...
On voit dans la biographie de Barré, je le dis, parce que de Jean-Luc Barré, la dernière biographie du général de Gaulle, en trois tomes, très longs, très complet, extraordinaire travail qu'a fait Jean-Luc Barré. Pour les auditeurs qui s'intéressent au général de Gaulle, je signale alors d'abord le livre de Saint-Robert qui s'appelle « De Gaulle et ses témoins ». Et ses témoins, ce sont presque toujours des écrivains. C'est cet ouvrage de Saint-Robert, publié aux éditions Bartilla, est un ouvrage sur notre sujet d'aujourd'hui, De Gaulle et les écrivains, en fait. Il s'appelle « De Gaulle et ses témoins ». Mais, indépendamment de cela, le livre de Barré dont je parlais fait dire au général de Gaulle fait ressurgir dans la bouche du général de Gaulle des choses que j'ignorais tout à fait, on en apprend tous les jours, notamment des propos extraordinairement acerbes sur Sartre. Alors là, il a considéré que Sartre était un zouave, un vrai zouave. Je ne sais même pas s'il n'utilise pas le mot zouave. Il n'empêchera pas de dire plus tard, mais ça veut dire, ça a un autre sens, on ne met pas Sartre en prison. On ne met pas Voltaire en prison, il l'a dit à propos de Sartre.
Oui, bien sûr.
Qui prêchait la subordination lors de la guerre d'Algérie. On ne met pas Sartre en prison, on ne met pas Voltaire en prison, ça protégeait plus ou moins Sartre. Mais enfin, il le prenait vraiment pour un gogol. Hein,
oui.
Je crois qu'il est le beau zouave. Et puis, non, c'est plutôt à droite. Et on dira Malraux. On dira Malraux. Alors ça, je le dis avant que Saint-Robert nous écoute, parce qu'il ne va pas être content. Mais... je le connais très bien, comme vous le savez. Malraux, tout homme de gauche qui se voulut un certain temps, au fond jusqu'à la Résistance. Et la Résistance, il a cette phrase magnifique, j'ai compris dans la Résistance que la question sociale était soumise à la question nationale. Ça veut dire beaucoup de choses.
Il avait été quand
passage
même...
Passage à la question nationale.
Sa gauche vient beaucoup, évidemment, de l'Espagne hein, aussi. Hein,
il y a beaucoup de l'Espagne.
Évidemment, comme il s'est engagé du côté de la République.
Et vient beaucoup
de la République,
aussi, une certaine mondanité des
oui.
années 30. C'est l'époque où le Parti communiste monte en sève. Alors que dans les années 20, le jeune Malraux, qui est né, je crois, en 1901, je crois que ça se situe en 1925, Malraux insiste auprès de l'éditeur de Maurras, qui annonce qu'il veut faire une nouvelle publication d'un petit livre de Maurras qui s'appelle Mademoiselle Mont, qui était paru une première fois avant la première guerre. Et Malraux dit, je veux absolument faire la préface, demande à faire la préface. Et il fait la préface à Mademoiselle Mont, œuvre de Maurras, et Malraux conclut, Charles Maurras est l'une des forces intellectuelles les plus puissantes du temps.
Donc, oui, ça rejoint ce que Proust avait dit de la lecture de l'Action française, hein, phrase bien connue, cure d'altitude mentale.
Et oui.
Voilà, c'est vrai, c'était une lecture.
Dauriac dit dans des entretiens de France Culture, la même chose que Proust, de toute façon, je ne me serais privé de la lecture de l'Action française pour rien au monde.
Oui,
et
mais...
Vous voyez tout petit monde, Mauriac, Malraux...
Mais c'était même au-delà de ce monde, parce que c'est une autre époque aussi. Alors bien sûr, toute la droite lisait l'Action française, mais il faut dire aussi que c'était une époque où on lisait les journaux, y compris du camp adverse, et même les gens de gauche lisaient l'Action française. Il y avait comme ça, c'était un journal qui était très lu, pas pour le critiquer, mais il y avait comme ça cette habitude de lire beaucoup de journaux. Mais c'est vrai que c'était une lecture formidable, vous n'êtes pas tellement d'accord.
On sait qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui lisent Valeurs actuelles, genre de...
Ah, aujourd'hui, non, ben, vous savez qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec les années 20. On n'est plus aux années 20, hélas. La lecture du journal n'est plus la prière de l'homme moderne, comme l'a dit, je crois que c'était Nietzsche. Mais alors, est-ce que nous avons peut-être Philippe de Saint-Robert qui nous écoute ?
Et bonjour.
Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous à l'antenne de Radio Courtoisie, avec Paul-Marie Couteau, évidemment, pour parler d'un sujet dont vous êtes, je crois qu'il n'y a pas mieux sur Terre pour parler de ce sujet. Évidemment, De Gaulle et les écrivains. Donc, vous avez connu d'abord le général de Gaulle.
Vous savez d'abord,
oui,
la première chose que fait le général de Gaulle quand il revient en 1944, c'est de s'occuper de l'Académie française. Sa préoccupation, c'est de repeupler l'Académie française. On doit sortir quelques académiciens qui ont collaboré pendant la guerre, je ne les citerai pas, ce n'est pas la peine, et de les remplacer. Et il commence à s'occuper de ça, c'est sa première préoccupation. Ensuite, il va très rapidement... Vous savez, le général de Gaulle, c'est un extraordinaire critique littéraire. Je ne sais pas si vous... On parle toujours des mémoires d'espoir, des mémoires de guerre, mais on oublie toujours qu'il existe un volume des lettres, notes et carnets du général qui va de 58 à 70 et qui a été republié par Jean-Luc Barré
chez
dans la collection Bouquin.
Oui.
Et dans ce livre, qui est un livre merveilleux, vous avez toutes les lettres du général de Gaulle aux écrivains. C'est absolument extraordinaire. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour Mauriac, pour Malraux, bien sûr, pour les grands écrivains, mais aussi pour d'autres écrivains moins connus. Il écrit à tout le monde. Tous les livres qu'il reçoit, il répond. Et alors, c'est un véritable critique littéraire, parce que dans ses réponses aux écrivains, elles sont toujours très très brèves, mais il y a toujours une phrase significative qui montre qu'il les comprend et qu'il les connaît. Voilà.
Une intensité.
Par exemple, je vois, il écrit à Pierre-Jean Jouve.
Oui.
À Pierre-Jean Jouve, qu'il aimait beaucoup, il lui écrit, il y a cinq lignes, mais alors il dit, par exemple, « Votre aimable dédicace me touche, si j'ose me dire, quelquefois, pauvre étoile, par d'autres étoiles moquées, tu apprends à mourir. » Donc, il cite dans cette lettre un vers de Pierre-Jean Jouve, voyez-vous. Et donc, il écrit aussi, il écrit pour Romain Gary, pour Maurice Clavel.
Pour Francis Ponge, peut-être, je crois, hein.
Pour Frédéric Grindel. Puis là, il y a aussi des lettres à des hommes politiques qui ont écrit des livres. Par exemple, sa lettre à l'archiduc Otto de Habsbourg est intéressante parce qu'il le remercie d'un livre sur Charles Quint en lui disant que je suis quand même bien content, la maison de France ait mis des bornes aux ambitions de Charles Quint. Il écrit une lettre au duc de Castres et il fait l'éloge de Louis XVIII. Voyez, c'est très intéressant parce que c'est très varié. Il écrit une lettre au duc de Lévi-Hirepoix, il fait l'éloge de Philippe le Bel. Bon, et tout ça est très détaillé, très très subtil, très ouais. très détaillé.
Vous faites très bien de rappeler effectivement ces messages.
Il y a un texte, par exemple, alors Mauriac, il y a beaucoup de lettres évidemment à Mauriac. Par exemple, aussi celle du 13 juillet 59, François Mauriac est dans ses romans, il est dans ses articles, mais ses sujets et ses personnages s'y emparent plus ou moins de lui. C'est à travers les uns et les autres qu'on le reconnaît lui-même. Il en va différemment dans les mémoires intérieures. Là, Mauriac se regarde et se montre comme dans une glace, etc. Le génie des écrivains qu'il considère montre comme qu'il considère et qu'il pénètre ne fait que le refléter lui-même, etc. Mais c'est toujours extrêmement détaillé. Un écrivain qui a écrit un livre sur Monterland, il écrit, comme vous le donnez bien à voir, le genre indéfiniment le fait religieux, qu'il ne pénètre ni des yeux ni de l'âme, sans dire qu'il... Attendez, je vais...
Je vous en prie. Voilà, il faut dire un instant, avant que vous prononciez cette citation, que vous êtes l'auteur d'un fameux ouvrage hein, sur le sujet, Monterland le séparé, dans lequel vous revenez, entre autres, évidemment, c'est un livre d'abord sur Monterland, mais où vous revenez aussi sur les relations, ses relations avec le général de Gaulle.
Alors voilà, il écrit « Monterland est et veut être le séparé, mais vous l'avez atteint à force de l'avoir compris, et voici que votre talent nous le fait atteindre. Comme vous nous le donnez bien à voir, longeant indéfiniment le bord de l'océan religieux, que son génie ne quitte pas des yeux ni de l'âme sans y pénétrer jamais. » Vous voyez, il y a quatre lignes là qui résument Monterland. Monterland n'en revenait pas. Monterland n'avait pas beaucoup le général de Gaulle. Alors, il n'en revenait pas de cette tête. Quand il m'a dit que c'était le meilleur qui ait été écrit sur lui-même. À Frédéric Grinzel aussi, il écrit par exemple, à propos d'un livre que lui, on est en 69, « Dans cette âme sans espoir, au milieu de ce monde immobile qui illustre 60 soleils, c'est le titre du livre, que de lueurs vivantes et fugitives éclaire la fin de l'homme condamné. » Il y a toujours en deux phrases.
Ah, c'est un art de la synthèse absolument formidable, effectivement.
Le général de Gaulle est un critique littéraire inconnu.
Alors, bien sûr.
Je ne comprends pas pourquoi ce gros volume, qui est merveilleux, où il y a tant de lettres, et qui est dans la collection bouquins, qui est à la portée de tout le monde, qui doit être disponible, on ne le cite jamais.
C'est vrai, on s'en tient toujours aux mémoires et on oublie cet à côté.
À Romain Gary, à Maurice Clavel.
À Le Clésio, on le disait tout à l'heure, avec Paul-Marie Couteau, qui vous écoute religieusement, Paul-Marie.
Il avait prédit à Le Clésio son avenir littéraire, dans une très belle lettre qu'il lui écrit lors de son premier roman. Donc, vous voyez, c'est très intéressant, et vraiment pour lui. Et alors, attention, et il écrit même à des écrivains qu'il n'avait pas suivis, parce que. Ils honorent la langue française, voilà. Donc même un écrivain qui n'avait pas été de son côté, il lui dit « Vous ne m'avez pas suivi, mais vous honorez la langue française, et donc je vous félicite. »
Paul-Marie Couteau.
Voilà.
Oui, je connais le livre de ce recueil fait par Barré, c'est le même Barré que celui dont nous parlions tout à l'heure. Mais il y a tout de même, Fille de Saint-Robert, si vous m'entendez, il y avait tout de même une hiérarchie chez le général de Gaulle. Il y a des auteurs qu'il a beaucoup plus lu que d'autres, quand même, il faut le dire.
Ah bah,
j'imagine mal de Gaulle lisant L'être le néant,
d'autres
ouvrages contemporains comme Le Diable et le Bon Dieu.
Non, on n'a pas de lettre à Chateaubriand, mais son grand homme, c'est Chateaubriand. Le nombre de fois où il le cite dans ses notes des carnets est frappant. Et il avait beaucoup lu Nietzsche aussi, vous savez ça.
Oui, un certain Nietzsche, peut-être. Mais quelqu'un lui demande quel est le plus grand contemporain vivant. C'est une question un peu insolente. Ça date de 1947. Je crois que c'est Roger Stéphane, je ne sais pas. Roger Stéphane demande au général de Gaulle, en 1947, question un peu insolente et un peu délicate, quel est le plus grand écrivain français contemporain vivant?
Oh oui.
C'est embarrassant.
Mais oui.
Peut-être Claudel.
Mais attendez, je vous livre la réponse du général de Gaulle, si vous voulez bien. Il dit, bien entendu, je pense à Malraux pour l'Espoir et à Bernanos pour le journal d'un curé de campagne. Mais s'il s'agit de choisir une œuvre, l'œuvre la plus complète et la plus impressionnante, je suis en train de lire là, hein, l'œuvre la plus complète et la plus impressionnante, c'est celle de François Mauriac. Voilà.
Oui,
alors, il avait privilégié Mauriac à ce moment-là, en 1947.
Il y a une lettre à Malraux qui est superbe, qui est de 1966. Mon cher ami, que le vent souffle plus ou moins fort, que les vagues soient plus ou moins hautes, je vous vois comme un compagnon à la fois merveilleux et fidèle à bord du navire où le destin nous a embarqués tous les deux. C'est vous dire de quel cœur je forme les vœux de nouvel an à votre attention, etc. Voilà. Son admiration pour Malraux, c'est considérable. Geneviève de Gaulle disait que son oncle et Malraux avaient été considérablement intéressés l'un à l'autre. C'est très intéressant. Ils étaient très loin l'un de l'autre, mais ils avaient lu Barrès, ils avaient lu Nietzsche, tous les deux. Et c'est ça qui les a rapprochés.
Il y avait cette base en commun, puis évidemment, on ne peut que citer les chaînes qu'on abat, qui est hélas de plus en plus difficile à trouver en librairie, je le dis au passage, ah bon, ce qui est quand même très étonnant, parce que ça fait partie des classiques. Mais faites l'essai, chers auditeurs, allez dans votre librairie, essayez de trouver les chaînes qu'on abat, vous aurez beaucoup de mal, ou même les anti-mémoires d'ailleurs, en général. Malraux n'est pas si bien servi que ça par nos libraires d'aujourd'hui, hélas, hélas, hélas.
Bah, écoutez, c'est le 50e anniversaire de sa mort.
Oui.
Et je crois que la Fondation Charles de Gaulle va publier un livre consacré à
absolument
prochainement. Voilà.
Effectivement, le président de la Fondation, Hervé Guémard, va publier, je crois, un dictionnaire amoureux d'André Malraux. Ça, c'est un à côté.
Oui.
Mais j'étais très intéressé par ce que vous disiez, Paul-Marie, sur ce triangle. Évidemment, il y en a un qui est un peu à l'écart, parce que le général de Gaulle ne l'a pas beaucoup rencontré, très peu, peut-être deux fois, je crois. C'est Georges Bernanos, c'est pourtant écrivain ardemment gaulliste.
Dans ce volume dont je vous parle,
ça, je laisse réponse à Saint-Robert.
Bien sûr.
Il n'y a pas de lettre à Bernanos. Il n'est pas réussi. Bernanos était gaulliste, il a toujours soutenu le général, mais bon, d'abord il est mort très vite après la guerre, et puis il n'a jamais voulu entrer dans le... Il n'a jamais voulu s'atteler, comme aurait souhaité le général, au renouveau de la France de l'époque. Voilà. C'est mystérieux, c'est comme ça. Dans le livre dont vous citez, il y a une lettre à Madame Bernanos, une lettre à Yves Bernanos, mais il n'y en a pas à Jean Bernanos. Ils ont pourtant dû s'écrire, mais je ne sais pas.
Voilà. Ils ont échangé quelques lettres, en effet, je crois.
Il aimait Marie-Noël aussi. Il aimait beaucoup Marie-Noël.
Oui.
Extraordinaire, la diversité de ses goûts littéraires est très intéressante.
Marie-Noël, la poétesse bourguignonne.
Je peux dire un mot sur Bernanos. Comme disait Saint-Robert tout à l'heure, à la Libération, ce qui est très frappant, il arrive à Paris, on le sait, le 24 août, il y a le défilé du 25, enfin le défilé, la descente des Champs-Élysées du 25, il s'installe rue Saint-Dominique, et rue Saint-Dominique, une des premières choses qu'il fait en effet, dans les derniers jours d'août et les premiers de septembre, c'est de rencontrer des écrivains, de les inviter à déjeuner, c'était un peu sa récréation, alors que le travail était harassant évidemment dans les premiers jours de la Libération, du moins celle de Paris. La libération totale du territoire interviendra 6 mois plus tard à Colmar. Mais il reçoit Gide, il reçoit Mauriac, on vient de le dire, il reçoit en effet Bernanos, et il lui propose d'être ministre, c'est ce que je voulais ajouter,
oui, oui,
à table. Et Bernanos se dérobe, en effet. Est-ce que le général en a été un peu contrit? C'est possible. Bernanos n'a pas voulu. Il y en a un autre qui lui a dit non, c'est Maritain, qu'il reçoit aussi dans la foulée, si on peut dire.
Il offre même l'ambassadeur.
Et oui, alors Maritain n'a pas voulu rester auprès du général de Gaulle, mais a accepté d'être ambassadeur, et encore pas n'importe où, à Rome.
Oui. Bien sûr.
Et oui, mais il savait très bien utiliser les gens quand il le pouvait, mais pour lui, les écrivains, c'était quelque chose à part de la politique, en fait. Voilà. C'était un domaine...
Il a fait ministre, et ministre d'État, écrivain, c'était Malraux quand même.
Mais il acceptait très bien qu'il ne se mêle pas trop de la politique. La preuve, c'est que, par exemple, il a écrit à certains écrivains, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il n'avait pas soutenu pour leur dire que, quand même, il les estimait beaucoup.
Bien sûr, et vous parliez de Bernanos, il faut quand même noter l'audace de cet écrivain, évidemment formidable, qui, pendant la guerre, lorsqu'il était au Brésil, d'ailleurs il a accepté de jouer un rôle de représentant en quelque sorte de la France libre au Brésil, durant son exil, a écrit dans ce formidable recueil de textes qui s'appelle « Le chemin de la croix des âmes », qui sont tous ces écrits brésiliens, on se rend compte qu'il a écrit un certain nombre de textes à la première personne du singulier, en se prenant littéralement pour De Gaulle, en incarnant De Gaulle, en écrivant des messages imaginaires du général De Gaulle, qu'évidemment à ce moment-là il n'avait pas rencontré, qu'il avait seulement entendu à la radio. Il raconte, il y a un très beau texte où il raconte avoir entendu l'appel du 18 juin au Brésil. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça a été possible matériellement.
Dans un hôtel, si, il raconte les circonstances.
Dans un hôtel, absolument, oui, vous avez raison.
Il raconte les circonstances, mon connaisseur de Bernanos, il était dans un hôtel. Dans l'entrée, le vestibule d'un hôtel, ce qu'on n'appelle pas le hall, bien sûr, surtout pas devant le commissaire général de la française, le vestibule d'un hôtel, et la radio était diffusée sans doute à dessein pour les Français de l'hôtel, puisque c'était une voix française qui parlait à la BBC, qui était le général de Gaulle. Et je crois que c'est l'APA qui précise à ce moment-là, très ému aussitôt, oui. Bernanos fait venir en faisant chute avec le doigt sur ses lèvres pour qu'il se taise, fait venir tout l'entourage et sa famille écouter une voix française. Voilà.
Sa famille très nombreuse, et c'est vrai qu'il menait une vie avec cette SMALA un peu improbable qu'il emmenait au gré de ses déménagements, parce qu'il vivait un peu à la cloche de bois malgré tout. Mais c'est vrai que ce texte est très beau, ce texte sur le 18 juin, effectivement, cette radio dans un hôtel. Mais ces messages imaginaires, alors je vous en lis un tout petit extrait, français, alors Bernanos incarnant littéralement le général de Gaulle. Français, ce qu'on veut vous faire prendre pour une espèce de renouvellement, de fermentation universelle, prélude à la naissance d'un monde nouveau, n'est rien d'autre que l'ensemble des phénomènes divers qui marquent la décomposition générale de ces sociétés humaines qui, à leur plus haut point de différenciation et d'excellence, s'appelèrent des patries. Je ne veux pas dire que ces patries fussent sans défaut. J'admettrais même que ces défauts ou ces manques fussent énormes. Du moins, ces patries étaient vivantes. Elles avaient franchi la limite idéale qui sépare la logique de la vie. Elles auraient pu se réformer selon la loi de la vie et non pas selon des exigences des doctrinaires dont la moindre réforme, en passant de la théorie à la pratique, se paie de destructions irréparables. Donc vous voyez qu'il allait assez loin. Je ne suis pas sûr que le général de Gaulle aurait dit ça de cette manière, mais en tout cas, une certaine audace bernanosienne et cette relation donc très, très rapide. Reste à parler évidemment de Mauriac, dont on a parlé en filigrane, et qui était finalement l'observateur privilégié via le bloc-notes notamment, et puis ce livre de Gaulle qui existe toujours dans les cahiers rouges de Grasset. Peut-être Philippe de Saint-Robert sur Mauriac.
Oui, c'est toujours là.
Alors, de Gaulle et Mauriac, vaste sujet, comme aurait dit de Gaulle lui-même.
C'est très curieux parce qu'en même temps, Mauriac se plaignait du général parce que finalement, le général ne le voyait jamais. Mauriac aurait bien aimé être consulté souvent par le général, mais le général lui écrivait, le remerciait, etc. Mais il ne se voyait pas beaucoup et Mauriac en était un peu mari, je crois. Voilà.
Un peu chafouin, peut-être. Nous le notions tout à l'heure avec Paul-Marie Couteau, Philippe de Saint-Robert. Est-ce que parfois, on ne peut pas dire que Mauriac s'est aussi écarté de la ligne politique stricto sensu? On sait que, par exemple, le RPF, il a d'abord été assez enthousiaste, puis moins. Ah oui, il y avait quand même une vraie liberté chez lui.
C'est exact. Il n'était pas, au début, il n'était pas un grand... Il n'a jamais été, pendant la traversée du désert, il n'a jamais adhéré au RPF. Mais ça n'a rien à voir. Au fond, il était quand même très, très profondément gaulliste.
Très bien.
Paul-Marie Couteau. Va de sa lecture, je voudrais lire un petit passage, alors trouvé toujours dans l'ineffable Barret, Jean-Luc Barret, du journal de Mauriac, où il relate une conversation qui a mal tourné, on peut dire, avec le général de Gaulle. Et ça peut expliquer en partie l'attitude un peu distante de Mauriac, où il suit son fils principalement, hein, Claude, qui ne veut pas faire partie de l'aventure du RPF. aventure qui est mal lancée, puisqu'il a lancé à quelques semaines de municipal, évidemment.
Ah, ça a été un succès quand même, ces
Claude
municipales.
Mauriac était à un moment donné le secrétaire du général
Bien sûr.
quand il est revenu à Paris en
Oui.
45,
Alors je
44,
reviens, bah,
45.
passons sur le RPF. Le
Bien
RPF a
sûr.
été un échec en réalité, mais c'est surtout dû au général de Gaulle qui s'est trompé de mouvement. Il l'a lancé à quelques semaines des municipales de 47. C'était évidemment inopérant parce qu'il a remporté la plupart des grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, etc. Mais, Lyon, je ne suis pas sûr, mais enfin la plupart des grandes villes, mais le régime a eu le temps de se reprendre. Il lui fallu qu'il lance le RPF avant les élections législatives, qui sont beaucoup plus déterminantes, bien
Y
entendu, quand
compris,
elles
c'est une parenthèse dans la parenthèse, le régime, déjà à l'époque, a même modifié le mode de scrutin pour empêcher De Gaulle d'avoir la
apparentement.
majorité à l'époque. Oui,
Pour faire une alliance de tout le monde contre, ça nous
les
rappelle quelque chose,
apparentements,
d'ailleurs.
ça nous rappelle quelque chose. Mais
Apparentement,
on vous
oui.
laisse
Bon,
lire
mais
cet
donc,
extrait, Paul-Marie.
il fallait qu'il se lance plus tard, avant les législatives. Mais bref, ça, c'est très important parce que ça en dit beaucoup, même si c'est plutôt le côté sombre du général. Tant pis, ça va faire plaisir à certains auditeurs de Radio Courtoisie, de radio où on n'aime pas spécialement le général de Gaulle. Bon, d'ailleurs, on en parle toujours à propos de l'Algérie, le général de Gaulle, pour essayer de le coincer, c'est tout, le pauvre. Mais même l'autre jour, j'étais invité pour parler du 18 juin. On a trouvé le moyen de me faire parler à la matinale de l'Algérie. Bon, c'est une façon de le coincer toujours. Mais enfin, il y a un autre côté sombre du général qui est très bien vu par Mauriac, qui vient le 3 février 1945 voir le général pour obtenir la grâce de Brasillach. Pour
Oui.
ça, quand on dit d'ailleurs, entre parenthèses, que Mauriac était plus à gauche qu'à droite, enfin, il a quand même fait grande campagne pour sauver la tête de Brasillach, qui était tout de même un homme bien bref. Compromis dans l'idée allemande, mais enfin, il ne faut pas jeter la pierre. En tous les cas, De Gaulle le reçoit, mais reste tout à fait imperméable et refuse la grâce, comme on le sait. Et Mauriac écrira: Ce qui m'a frappé en lui, c'est sa force prodigieuse de mépris. C'est son côté officier noble, courtois, certes, et poli, mais de cette façon qui est celle des hommes d'une autre race. On le sent surtout. Rempli d'orgueil, après le mépris, l'orgueil, c'est Mauriac qui écrit sur le général. On le sent surtout si rempli d'orgueil et de la conscience de sa supériorité que la vraie différence entre lui et les autres réside là. J'ai eu l'impression d'être enfermé pendant une demi-heure avec un cormoran et qui parlait cormoran. Vous
Les
voyez que
fameuses
c'est pas
métaphores
complètement
animales
facile.
de François Mauriac, qui parlait aussi pour les députés des carpes profondes. Des carpes qui chérissent leur boue profonde, pour parler des députés. Donc aujourd'hui, on dirait que c'est un populiste, sans doute.
De Gaulle et Mauriac communiaient dans
Bien
l'antiparlementarisme.
sûr, bien sûr,
C'est
l'antiparlementarisme,
leur
parfois assez
position.
nécessaire en France, et même assez souvent, parce que la France, ce n'est pas un pays où le Parlement incarne vraiment le cœur de la nation, mais c'est un
Le
autre
Parlement, ça a toujours
débat.
été la catastrophe.
Bien sûr, dans ce sens, c'est vrai. Merci beaucoup, Philippe de Saint-Robert,
Voilà,
d'avoir été avec nous.
je vous rends l'antenne.
C'était vraiment très, très agréable et intéressant de vous écouter. Donc, nous vous saluons depuis votre Creuse. Vous n'êtes pas
Voilà.
si loin, finalement, de Paul-Marie en Corrèze.
On a la canicule.
Voilà, très bien. Et
C'est là.
puis,
Nous ne sommes
au
pas un. Et
revoir.
avant que Saint-Robert parte, je voudrais le
Oui.
féliciter. À bientôt. Saint-Robert, ne partez pas. Ah ben, si, il
Ah,
est
je
parti.
crois qu'il est parti.
Le féliciter pour le très bel entretien qu'il a donné à, j'allais dire, notre ami, le mien en tous les cas, le sien aussi, plus ou moins, François Asselineau, et que l'on peut retrouver sur UPR TV, qui est la télévision de François Asselineau, lequel Asselineau l'a invité pour une conversation absolument vertigineuse, vraiment très intéressante. Il y a plus d'une heure de conversation entre Philippe de Saint-Robert et François Asselineau. Il y a d'ailleurs beaucoup de vues, plusieurs dizaines de milliers de vues. Et si certains de nos auditeurs sont intéressés par et la vie de Philippe de Saint-Robert et François Asselineau et tout simplement le sujet dont nous parlons aujourd'hui, je les invite à s'y reporter.
Ah oui, absolument, parce que Philippe de Saint-Robert est un personnage tout à fait extraordinaire. On vient de le voir avec les quelques extraits et nous l'en remercions qu'il a bien voulu nous lire à l'antenne et qui était très bien. Dans un instant, nous recevons Guillaume Senet de Murmures dans la Cité, mais juste avant le Bobino, évidemment, sur Radio Courtoisie.
Chaque année, c'est le même scénario. Les vacances commencent, le quotidien s'arrête et certains choisissent d'oublier leurs engagements. Cet été, n'abandonnez pas Radio Courtoisie. Alors que la gauche veut nous bâillonner et détruire notre liberté d'expression qui vous est chère, votre radio reste fidèlement à vos côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'été est la période la plus difficile de l'année. Nous avons besoin de 200 000 euros pour continuer à émettre et vous préparer une rentrée percutante. 1 euro, rien qu'un euro par auditeur. Cet été encore, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Soyez partie prenante de cette résistance. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Radio Courtoisie, libre, indépendante et fidèle, grâce à vous.
Et nous nous retrouvons donc à Radio Courtoisie, toujours avec Paul-Marie Couteau. Le Bobino parlait à l'instant de la gauche culturelle qui cherche à nous bâillonner. Notre invité Guillaume Senet peut en témoigner, évidemment, avec son spectacle « Murmure dans la cité ». Bonsoir, bonjour monsieur, nous sommes encore l'après-midi, alors disons-nous bonjour. Est-ce que vous nous entendez ? Ah, en tout cas, nous ne pouvons pas vous entendre pour le moment, cher monsieur Navré. Peut-être en attendant de résoudre ce petit problème, Paul-Marie Couteau, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette très belle initiative des murmures dans la cité ?
Ah oui, alors c'est moi qui vous ai parlé de Guillaume Senet, qui est ce vaillant garçon qui a d'abord créé une université, la faute m'est imputable, qui s'appelle Sophiapolis, non pas Antipolis, c'est Sophiapolis.
Ah, Sophiapolis. Antipolis, c'est dans le sud de la France, je crois, c'est tout à fait autre chose.
C'est une erreur, mais vous l'avez reprise, mais c'est de ma faute à l'origine. Sophiapolis, c'est une université qu'il tient dans la propriété familiale, qui est une magnifique propriété à quelques encablures de Moulins, et de Sauvigny, pour ceux qui connaissent l'Allier. Merveilleuse région.
Très belle région, oui, j'allais le dire. Oui,
oui, c'est très beau l'Allier. Plein de châteaux, d'abord, pour commencer, notamment celui de la famille Senet, où il reçoit toute une semaine, à la fin du mois de juillet, des jeunes qui font vraiment plaisir à voir le renouveau chrétien. Je dis chrétien parce qu'il y a aussi des prêtres, il y a une messe tous les jours au début. Ce n'est pas le cas de toutes les universités, au début de chaque journée, et pour clore aussi la semaine. Donc ça fait partie de ces jeunes qui portent un inattendu renouveau chrétien, qui se réunissent pendant une semaine. Alors il y a des activités intellectuelles, spirituelles, je viens de le dire, des messes, mais il y a aussi des conférences, mais il y a aussi des activités plus concrètes consistant par exemple à réparer un mur du château, des choses comme ça. Et j'étais très enthousiasmé la première fois que je suis venu, je crois il y a 3 ou 4 ans, c'était en 2022, une des premières sessions de cette université d'été qui en était à ses débuts et qui continue cette année, Guillaume Senet veut vous en parler, et qui a surtout donné Murmure dans la cité, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus... un peu plus ample et qui s'est installé dans la cité de Moulins. Peut-être que Guillaume Senet, que je vois reparaître à l'écran, peut dire la
oui,
suite.
Oui, peut-être que vous êtes maintenant avec nous, cher monsieur.
Alors, si vous m'entendez, tout est bon de mon côté.
Ah, c'est parfait, oui, on vous entend et on en est très heureux. Est-ce que vous pourriez nous présenter donc, ce projet, ces universités d'été au cœur de l'Allier ?
Oui, bien sûr. Alors déjà, je vous remercie. Merci beaucoup, Paul-Marie. Merci, cher monsieur. Effectivement, comme le disait Paul-Marie, nous organisons ces universités afin de former jeunes et moins jeunes. Vous êtes bien évidemment tous les bienvenus sur toutes les dimensions de l'être de l'homme, à savoir la dimension intellectuelle et la dimension plus pratique au travers des savoir-faire. Et nous avons des intervenants bien évidemment, qui sont éminemment brillants, qui viennent à nous former, dont Paul-Marie fait partie. Paul-Marie sera également là, d'ailleurs, dans 15 jours, du 27 juillet au 2 août, lors de notre 7e université d'été. L'objectif est de nous former intellectuellement à l'enracinement. Qu'est-ce que c'est que l'enracinement ? Eh bien, c'est notamment toutes les disciplines qui nous font réfléchir, qui vont stimuler l'intellect et qui vont faire que nous aurons plus conscience à la fois des enjeux et de l'engagement véritable que nous pouvons avoir au sein de la société. Ce sont des initiations, des formations aux humanités, donc c'est à la fois de la philosophie, c'est un peu de théologie avec des prêtres, c'est également des interventions à savoir comment plus concrètement s'engager, s'investir dans la cité avec des intervenants qui sont des personnes plutôt engagées dans la sphère politique, comme Paul-Marie par exemple. Ce sont des universitaires bien évidemment, et qui viennent tous nous instruire, nous parler des disciplines pour lesquelles ils sont éminemment compétents. Et l'objectif, c'est effectivement de pousser ces personnes qui viennent se former, s'engager dans la cité, qu'est-ce que ça peut être? Bien, c'est tout simplement... Ah, vous m'avez perdu.
Aïe, aïe, aïe.
Vous m'entendez?
Nous vous entendions, nous vous avons un peu perdu.
Vous m'entendez?
Mais là, maintenant, nous vous entendons parfaitement. Ça, ce sont les joies. Nous sommes vraiment dans cette grande région entre la Corrèze, la Creuse et avec vous, l'Allier. Mais c'est très bien. Ça nous, ça nous permet d'être connectés au pays réel, comme on dit. Un mot, donc, sur ce spectacle aussi des Murmures de la Cité, au-delà de cette université d'été. Donc, Murmures de la Cité, dans la Cité, vous êtes devenu assez célèbre grâce à ce spectacle, parce que, je le disais avant ces petites coupures, vous avez été absolument persécuté par une gauche culturelle vengeresse.
Et effectivement, alors l'objectif de ce spectacle, pour la genèse, l'objectif est de faire redécouvrir notre histoire, notre héritage culturel au plus grand nombre et de transmettre cette mémoire collective. Ça, c'est extrêmement important. Et l'objectif secondaire, en plus de cet objectif de transmission, c'est un objectif de rassemblement. L'objectif, c'est de rassembler les personnes autour de valeurs, autour de tout ce qui nous relie, à savoir voilà, cette histoire. Et donc, effectivement, un tel projet ne plaît plus au XXIe siècle dans une France déchirée politiquement, déchirée à tous les niveaux. Il suffit d'allumer ne serait-ce qu'un instant la télé ou de sortir dans la rue pour s'en rendre compte. Et donc, nous avons décidé, nous, de réunir lorsque tout est divisé, lorsque tout est friction, division et querelle. Et donc, effectivement, nous avons été extrêmement attaqués, vous n'ignorez plus, par la gauche politique, les LFistes, les communistes, toutes ces personnes qui se veulent du courant woke, qui pensent nous éclairer, mais en réalité qui ne font que faire oublier toutes les lumières de l'intelligence et qui essayent de faire retomber notre société dans les véritables ténèbres de la division et on peut le dire un peu presque de guilde lorsque l'on voit leur procédé. Nous, pour un simple spectacle historique en Auvergne, nous avons des élus de gauche qui diffusent des adresses, des photos de domicile sur des blogs communaux. Vous avez des militants politiques tels que la CGT qui viennent faire des rondes aux abords de votre domicile pour vous insulter, vous intimider, placarder des affiches, etc. Voilà, ça c'est la réalité aujourd'hui du terrain lorsque vous essayez de transmettre, de faire du beau et de rassembler des personnes. Mais au-delà de ça, il faut quand même se rendre compte, parce que je pense que ouais, c'est quand même beau de parler du beau, de se rendre compte que c'est quelque chose qui plaît. Ces spectacles plaisent, il y a un bel engouement. Nous jouons notre spectacle dans quelques jours, il reste encore des places, mais il y a déjà
est-ce que vous auriez une date précise à donner à nos auditeurs de la région ou d'ailleurs qui auraient envie tout simplement de venir vous soutenir?
Bien sûr. Bien sûr. Alors moi, je vous donne rendez-vous à la fois pour vous rencontrer et puis pour pouvoir présenter cette histoire du cœur de la France les 10, 11 et 12 juillet. Donc c'est ce vendredi, ce samedi et ce dimanche avec ce spectacle qui est relativement long. Donc bien évidemment, ça vous promet une très belle soirée, un spectacle d'1h50, un spectacle nocturne bien évidemment, qui vous permettra de découvrir tout cet héritage du cœur de la France. Et puis si vous le souhaitez, si vous voulez carrément venir faire un week-end, une immersion auvergnate, vous pouvez venir découvrir en journée notre village de reconstitution historique où nous avons une vingtaine d'associations qui sont présentes, où vous pourrez découvrir les us et coutumes, les modes de vie des différentes époques qui ont marqué l'histoire.
On dirait les premiers temps,
évidemment, très nombreux.
Les premiers temps du Puy du Fou.
Oui. C'est une inspiration, j'imagine, pour vous, ce Puy du Fou.
Ah, mon Dieu.
Ah, de nouveau, hélas, Il doit y avoir un petit problème sur la ligne. Mais c'est vrai qu'évidemment, le parallèle, Paul-Marie, est tentant avec l'aventure de Philippe de Villiers, qui a réveillé cette terre vendéenne, qui avait été tout à fait méprisée après, évidemment, les guerres de Vendée. Ça, c'était autre chose. Mais même très récemment, méprisée par la République, jusqu'aux années 70-80, la République délaissait tout à fait la Vendée. Il y a eu un réveil. Et là aussi, pour ces départements que vous affectionnez, Paul-Marie, ça, c'est intéressant. Là, on parle du Bourbonnais. Vous êtes en Corrèze. Il y a comme ça tout un grand centre de la France avec des identités très diverses. Il ne s'agit pas de les mêler dans une seule et même région immense. Mais il y a là toutes sortes de petites provinces, de l'Eurouergue, par exemple. C'est celle que je préfère dans tout ce coin-là. Qui sont un peu délaissées par les beaux esprits, alors que vraiment, c'est le cœur de la France.
Alors, une anecdote, puisque nous parlons du général de Gaulle, on y revient toujours. Mais avec vous, je m'y autorise de nouveau.
Mais oui.
C'est ça, une anecdote rapportée par Saint-Robert qui un jour voit le général de Gaulle et qui glisse l'ombre d'une critique. On aurait pu faire ceci, on n'a pas fait cela, ceci va mal, ceci va mal. Et de Gaulle le retient du bras et lui dit « Oh, mon cher Saint-Robert, il nous restera toujours le Massif central.
» Mais ça a été vrai en 40, parce que…
Il a son nom, il est massif, il est central, oui. Il est imprenable.
Absolument.
Et c'est pas un hasard si tous nos interlocuteurs qui est dans le Bourbonnais, qui a subi le même sort que la Vendée, un mépris général par son nom qui sonne bon l'ancienne France de la République, la Creuse qui est réputée et qui est en effet très sous-peuplée, l'Aveyron, le Rouergue dont vous parliez, la Corrèze, le Cantal, le Lot, le Quercy, tout ça, si nous en parlons beaucoup, et si y a un regain de faveur, c'est peut-être, comme la Bretagne d'ailleurs, parce que ce sont de vieilles terres dont on subodore qu'elles sont imprenables. Voilà, il y a une espèce de repli sur le roc français le plus immémorial.
Mais bien sûr, parce que vous parliez, on parlait du général de Gaulle, la résistance en France a été possible évidemment par la qualité des Français, par le caractère propre du peuple français, mais aussi par la géographie. Évidemment, ce qui était possible en France l'était beaucoup moins aux Pays-Bas ou en Belgique, par exemple, dans d'autres pays occupés. Il y avait en France, qui est quand même le pays le plus étendu d'Europe occidentale, on l'oublie toujours. Et même
avec la Russie.
Oui, c'est pour ça que je précisais occidentale, absolument. Bien sûr, il y a la Russie autrement. Mais en tout cas, dans notre péninsule à l'ouest du continent, la France est d'assez loin d'ailleurs. Et même si on omettait l'outre-mer, le pays le plus vaste, avec des régions assez déserte, en effet. Monsieur Senet, je crois que nous vous avons de nouveau récupéré, navrez-vous, ces coupures. Alors peut-être on va vous laisser, pas le mot de la fin, mais presque, sur cette volonté que vous avez, qui est très belle, de redonner du lustre à ce Bourbonnais qui a même été effacé des cartes officielles, puisque maintenant, département, région, vous faites quoi ? C'est la région, évidemment, Auvergne-Rhône-Alpes, comme il faut dire maintenant officiellement.
Alors effectivement, c'est la province du Bourbonnais, une province qui est éminemment riche. Paul-Marie introduisait cet entretien il y a quelques instants en parlant de cette beauté, notamment au travers de ses châteaux. Le Bourbonnais est effectivement une terre pleine d'histoire, pleine de petits fiefs. Voilà, c'est toute une histoire qui est éminemment belle, qui est éminemment malheureusement peu connue. Et donc l'objectif, c'est de faire redécouvrir toute l'histoire du cœur de la France. D'ailleurs, voilà, bien évidemment, je vous invite à venir voir ce spectacle. Peut-être que vous serez parmi nous. L'histoire du cœur de la France, c'est une histoire qui est très singulière. Rien qu'en termes géographiques, vous parliez un peu à l'instant de géographie. Il faut savoir que l'Auvergne, que cette partie de l'Auvergne, que le Bourbonnais, est vraiment un territoire de confins entre Languedoc et Languedoc. C'est un territoire qui en fait, a une identité qui n'est pas celle du sud de la France, mais qui n'est pas non plus celle du nord de la France. C'était un territoire que je ne peux que vous inviter à venir découvrir au travers de son histoire, de ses grands personnages, de ses héros, de tous ceux qui ont façonné l'histoire de France, et bien évidemment, voilà, à venir s'inscrire et bien dans cette continuité, dans cet
on
héritage, à venir porter également la flamme
Guillaume,
avec
on
nous.
On peut s'inscrire sur votre site
Tout à fait, Paul-Marie.
Parce qu'on est près
tout
de la coupure,
fait.
Là.
Ah oui.
Exactement. Tout à fait. Le site internet est murmuredelacité.fr, murmure de la cité. Allez-y, il reste des places, donc foncez prendre vos billets, venez nombreux, vous pourrez vous restaurer en famille, vous allez pouvoir également venir vous détendre et découvrir cette histoire, et venez en journée, bien évidemment vous aurez des coins d'ombre, des coins d'accès à l'eau parce qu'il fait chaud, mais on compte sur votre présence, venez très nombreux, il y a de nombreuses personnes qui viennent de loin et qui réservent des nuits en gîte pour venir voir ce spectacle, qui a beaucoup fait parler de lui, donc venez, ne faites pas la blague qui critique énormément cette initiative et qui ne vient voir ce spectacle.
Hélas, la gauche, visiblement, est en train de tirer sur le fil qui nous sépare. Nous en sommes navrés, bien sûr, on va mettre fin à ce bel échange. Mais en tout cas, on a bien compris qu'on pouvait venir vous voir cette fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche.
Alors, il y a deux manifestations.
J'allais le dire, Paul-Marie, peut-être est-ce que vous pouvez rappeler avant la fin ces universités d'été
un spectacle d'histoire, de reconstitution d'histoire, assez inspiré du Puy du Fou, comme nous disions tout à l'heure, mais très original, d'abord parce qu'on met en valeur le Bourbonnais, et puis ensuite parce que ces jeunes du Bourbonnais ont une manière bien à eux de présenter leur ville, qui déplaît beaucoup à la CGT, qui a fait des manifestations, etc. On trouve tout ça sur le site de Murmure dans la cité. Et puis, il y a dans les derniers jours de juillet, je crois que ça commence le 27, ça finit le 31 juillet, une semaine entière, placé à l'enseigne de l'université Sophiapolis, non pas Antipolis, oui. Sophiapolis, en effet, et auquel, je pense, on peut encore s'inscrire. Moi, je viendrai au début. Bon.
Et puis... Tout à fait. Inscrivez-vous et venez participer à ces universités d'été. Peu importe votre âge, on compte sur vous. Venez nous rencontrer et venez vous former pour vous engager pour la cité.
Eh bien, formidable d'avoir ces initiatives dans ces beaux départements, parler de l'Allier. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. La semaine prochaine, je pense que vous retrouverez à cette même place Guillaume de Thieulois. Merci beaucoup, Paul-Marie Couteau, d'avoir été avec nous pour cette émission sur De Gaulle.
Guillaume, la semaine prochaine.
Très bien, très bien. Eh bien, nous vous remercions et puis à très bientôt sur les ondes de Radio Courtoisie. Bon après-midi.
Venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur, dirigé aujourd'hui par Valentin Gore, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 8 juillet 2026 de 16h à 17h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.